France Inter.
Bonjour à tous, ce sont des morts trop longtemps passés sous les radars. Les victimes d'airbags défectueux, au moins 15 morts et de nombreux blessés ces 10 dernières années en France. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour Benoît.
C'est vous qui avez enquêté sur ce scandale et vous avez découvert que certains constructeurs ont beaucoup tardé avant de rappeler les voitures concernées et qu'aujourd'hui encore, au moins 100 000 véhicules circulent toujours en Outre-mer avec ces airbags défectueux et plus d'un demi-million en métropole.
Secret d'info. Benoît Colomba sur France Inter.
Ils ne décollèrent pas les clients de Citroën. Il y a 15 jours, la marque du groupe Stellantis a rappelé 240 000 véhicules en France, des C3 et des S3 dont le système d'airbag pourrait être défectueux.
Voilà, c'était le 31 mai 2024 dans le journal de 7h30 sur France Inter. Le groupe Stellantis annonce qu'il vient de lancer des rappels massifs de voitures en raison d'un grave problème qui concerne les airbags d'une marque japonaise, l'entreprise Takata, qui équipe de nombreux véhicules dans le monde. On va y revenir dans un instant. Mais pour bien comprendre toute cette histoire, Anne-Laure Barral, il faut s'arrêter un instant sur l'ampleur de ces rappels effectués par Stellantis. De quoi on parle exactement ?
En fait, ce sont 280 000 Citroën C3 et DS3 construites entre 2009 et 2019 qui sont équipées à l'époque de ces fameux airbags dangereux qu'il faut faire revenir d'urgence au garage. Mais il y a aussi d'autres modèles Citroën DS qui font l'objet d'un rappel, pas aussi urgent. En tout, 600 000 véhicules sont concernés, donc c'est énorme.
Et ces rappels en urgence, pourquoi ils sont officiellement déclenchés à ce moment-là ?
Eh bien parce que des accidents liés à ces airbags se multiplient et pour la première fois, ils ont touché la France métropolitaine. Comme en novembre 2023, près de Pau, où Tom Binquet, 19 ans, percute un véhicule et croit sa dernière heure arrivée.
J'ai très mal à l'épaule, je la sentais même plus. Même sur les tapis de la voiture, je revois tout ce sang. À l'hôpital, ils n'ont pas compris parce qu'ils ont vu qu'il y avait un objet métallique au fond de mon épaule. Et c'est après coup, une semaine après, qu'on a un voisin, un mécano, et il a dit « Non mais là, il y a un problème, l'airbag n'est pas resté accroché au volant, il est tombé à vos pieds. » Et c'est à partir de là qu'on a compris qu'il y avait un défaut aux airbags.
Et ce défaut, il fait aussi des morts.
Oui, un homme de 51 ans dans les Hautes-Pyrénées, toujours en novembre 2023. Mais en réalité, ça fait plusieurs années qu'il y a des morts et des blessés en Outre-mer. Bruno Guérin a créé une association des victimes des airbags Takata qui dénombre une trentaine d'accidents, dont celui de son fils, Tristan, tué le 16 mai 2023 par l'airbag de sa C3 en Guadeloupe.
Dès l'annonce de la mort de Tristan, un des intervenants qui était sur place et qui a essayé de le ranimer, nous dit il y a quelque chose d'un peu bizarre. On a l'impression que quelque chose a pénétré dans son œil. Et dans le rapport d'autopsie, il est marqué que le cerveau de Tristan a été pénétré par un objet métallique à grande vitesse, comparable à une balle de revolver.
Et cet objet métallique dont il est question, qu'est-ce que c'est exactement, Anne-Laure ?
Eh bien, c'est un morceau de l'airbag. Parce qu'il faut savoir, Benoît, que caché dans votre volant, il y a une capsule contenant un mélange explosif. Si vous avez un accident, les capteurs de votre voiture, comme ceux des pare-chocs, doivent envoyer en une fraction de seconde une impulsion électrique pour que cette capsule libère un gaz qui va gonfler le coussin de votre airbag et normalement vous sauver la vie. Mais avec les airbags Takata, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, comme l'explique Christian Grosjean, expert judiciaire automobile en Suisse.
Le défaut de ces Takata, c'est que, en plus d'éjecter le gaz dans les airbags, la pièce éclate. Et c'est ces bouts de métal qui partent en même temps que tout le reste. Un éclat d'acier qui part d'une distance de 5 ou 10 mètres peut, par exemple, vous transpercer un œil.
Et donc là, évidemment, on comprend pourquoi c'est si dangereux potentiellement pour les conducteurs. Et ça l'est d'autant plus que Takata utilise un mélange explosif bien particulier pour ses airbags.
En effet, du nitrate d'ammonium. Alors je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, hein, notamment quand le port de Beyrouth a explosé en août 2020 ou encore l'usine AZF de Toulouse en 2001.
Mais alors, pourquoi utiliser ce nitrate d'ammonium dans des airbags ?
Eh bien, il a l'avantage d'être très réactif. Il peut donc vite gonfler le coussin. Il est peu coûteux, mais son gros inconvénient, c'est que ce nitrate d'ammonium peut devenir très instable, comme l'explique Frédéric Poitou. Il est chimiste et expert judiciaire auprès des tribunaux français, belges et luxembourgeois.
Le nitrate d'ammonium, c'est une poudre avec des cristaux, donc un peu comme des cristaux de sel, qu'il capte assez facilement de l'humidité qui le rend explosif. Et puis, il a une instabilité chimique qui est liée aux variations de température, notamment aux chocs de température brutaux. Ils peuvent le rendre vraiment dangereux, c'est ça son problème.
Et malgré cette instabilité du nitrate d'ammonium, le fournisseur Takata a donc fait le choix de l'utiliser dans la composition de ses airbags, avec les conséquences qu'on sait. Et cette entreprise japonaise, Takata, comment elle en est arrivée là ?
Alors, à l'origine, il s'agit d'une entreprise familiale créée en 1933, plutôt spécialisée dans le textile, mais qui va se lancer dans la fabrication d'airbags et de ceintures de sécurité à partir des années 80 jusqu'à sa faillite en 2017, suite à de nombreuses procédures judiciaires, comme le rappelle Johan Leblanc. Il est journaliste à l'Automobile Magazine.
Takata était sous le coup d'un procès aux États-Unis. Des responsables de Takata ont reconnu leur faute et ont accepté de payer plus $1 milliard d'amende pour sortir de l'affaire.
Qu'est-ce qu'ils avaient fait exactement ? Vous avez vu ?
Il y a eu des falsifications de tests, ce qui a contribué donc à accélérer la faillite de l'entreprise, qui avait déjà dû régler des millions de dollars de factures pour remplacer des millions d'airbags.
Des falsifications de tests, c'est-à-dire ?
Eh bien, on va découvrir dès 2014 dans la presse américaine que Takata a caché aux constructeurs automobiles que même dans leur laboratoire aux États-Unis, certaines capsules explosaient alors qu'elles n'étaient qu'en phase de test. J'ai contacté un ancien ingénieur de chez Takata aux États-Unis, David Schumann, avec son collègue Kevin Fitzgerald. Ils ont écrit un livre pour dévoiler ce qu'il s'est passé au sein de l'entreprise.
Kevin a été le premier témoin de l'échec des tests demandés par Honda en 2000. Il a entendu des capsules exploser dans la chambre forte de notre laboratoire. C'était la première génération des airbags Takata qui étaient testés. Kevin a écrit un rapport très scrupuleux sur tout ça, mais ses chefs n'en ont pas tenu compte. Et moi, quand je suis arrivé chez Takata en 2004 pour travailler avec l'équipe recherche et développement, on devait fabriquer une nouvelle génération de capsules d'airbags pour Ford. Et c'est uniquement parce qu'on a ajouté un agent déshydratant dans la capsule qu'on a pu tout juste réussir les tests.
Mais du coup, ces ingénieurs de chez Takata, ils ont vraiment réussi les tests, finalement, grâce à cet agent déshydratant ?
Alors, pas vraiment, hein, mais surtout, les ingénieurs ont bien conscience que si les tests sont réussis, c'est temporaire. Ça ne garantit pas qu'il n'y ait pas de problème pour toute la durée de vie de la voiture ensuite. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé David Schumann et son collègue à informer le FBI et à alerter le public.
On voulait montrer qu'il s'agit d'un problème systémique lié au design de la capsule de l'airbag. Elle est mal conçue et aujourd'hui, les autorités américaines en conviennent. Mais on va aussi un peu plus loin dans notre livre, en montrant que la seconde génération d'airbag Takata au nitrate d'ammonium est elle aussi dangereuse. Parce que quand son agent déshydratant est saturé, il ne protège plus de l'humidité et la capsule se dégrade, comme les autres.
Oui, donc en fait, toutes les séries de capsules qui sont fabriquées par Takata sont potentiellement dangereuses.
Oui, et les volumes de production sont très importants, hein, puisque Takata a fait fabriquer 200 millions d'airbags conducteurs et passagers avant de faire faillite.
Et quand est-ce que les constructeurs vont se rendre compte de cette dangerosité ?
Dès 2004, hein, il y a des morts aux États-Unis. C'est Honda qui rappellera en premier des véhicules, mais les accidents se poursuivent. Takata et certains constructeurs contestent la nécessité de rappeler plus de voitures. En 2017, la fraude de Takata est avérée, les constructeurs n'ont plus le choix et cette affaire va déclencher le plus gros rappel de l'histoire de l'automobile avec plus d'une trentaine de constructeurs concernés, japonais, allemands mais aussi américains comme Tesla.
Et en France, il se passe quoi à ce moment-là ?
Alors certains constructeurs étrangers comme BMW ou Toyota font des rappels plutôt discrets sur leurs plus vieux modèles. En revanche, PSA, qui appartient maintenant à Stellantis, ne fait rien en France à ce moment-là. Mais dans d'autres pays, oui, comme l'explique Stéphane Cesareo, le directeur de la communication de Citroën.
Il y a des pays qui ont imposé de remplacer les airbags Takata et d'autres qui ne l'ont pas fait. En Japon, en Corée, en Chine, en Australie. 2017, 2018, 2019. Mais c'était un rappel qui était imposé à tous les constructeurs. Donc dans ces pays-là, effectivement, il a fallu le faire.
Ah oui, donc Stellantis rappelle des véhicules, mais pas en France. Mais personne ne les oblige à le faire ?
Bah non, aucune autorité française ne l'a imposé à l'époque. Et en plus, Citroën explique qu'il se fournit auprès d'une usine Takata en Allemagne et pas à celles qui sont concernées par les scandales aux États-Unis. Une position qu'a du mal à entendre David Schumann, le lanceur d'alerte américain qui travaillait chez Takata.
Cet argument technique n'est pas valable. Ce sont les mêmes capsules qui sont rappelées depuis plus de 10 ans aux États-Unis par les mêmes constructeurs automobiles. 99% des gonfleurs d'airbags produits par Takata ont été conçus par la même équipe dans le Michigan pour le monde entier, y compris en Allemagne. Les mêmes capsules allaient dans les mêmes modèles de voitures parce qu'elles étaient faites pour ça.
Bon, mais à l'époque, il n'y avait pas d'autres fournisseurs d'airbags possibles pour Citroën ?
Si, d'ailleurs Renault, lui, n'a jamais voulu d'airbag Takata au nitrate d'ammonium. Le constructeur n'est donc aujourd'hui pas concerné par les rappels. Mais il faut bien voir que quand le scandale éclate, Takata représente 20% du marché mondial des airbags. Et donc il est incontournable pour pas mal de constructeurs. Voilà ce que nous a expliqué un ancien haut cadre de chez Stellantis, qui ne souhaite pas dévoiler publiquement son identité. Nous avons donc fait lire ses propos.
Quand Takata explique en 2014 qu'il a un problème sur sa première génération d'airbags, ça devient un pestiféré immédiatement. Tout le monde lui demande « Est-ce que tes airbags d'aujourd'hui ont aussi un problème ?» Takata commence par dire que non, évidemment. Et vous avez envie de le croire, parce que sinon, c'est vous qui avez un énorme problème. Il faudrait arrêter des usines de production, retrouver d'autres fournisseurs d'airbags. C'est une intervention de plusieurs mois minimum.
Donc les constructeurs ont préféré croire Takata, mais ils vont quand même faire leurs propres tests.
Oui, ils vont surtout faire des modèles mathématiques pour tenter d'estimer la probabilité d'explosion des airbags dans le temps et en fonction des climats, humides ou secs, des analyses qui évalueront que le risque peut se produire dans les 6 à 30 ans. Mais nous avons soumis ces études à une climatologue de Météo France, Lola Corr, et écoutez ce qu'elle en pense.
Le fait qu'ils n'utilisent que 10 années pour bâtir leur modèle, enfin ça c'est quand même très risqué parce que en plus des changements climatiques, le climat il varie aussi fortement d'une décennie à l'autre. Donc là très clairement, c'est pas du tout pris en compte dans l'étude. Et on peut noter aussi que la Guyane, que là c'est un climat équatorial, donc encore plus chaud, encore plus humide, qui est pas pris en compte dans l'étude. C'est probable que la Guyane soit aussi le territoire le plus à risque pour le sujet qui nous intéresse ici.
Ah oui, donc en fait, les expertises des constructeurs sur ces airbags, elles ont de grosses limites.
Oui, même si elles montrent que ce sont les territoires humides qui sont les plus à risque, c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle Stellantis est arrivé en 2020, selon ses propres tests, et il décide donc de lancer ses rappels en Outre-mer.
Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui fait bouger Stellantis ?
Il va y avoir aussi des enquêtes de police sur des accidents, dont un mortel au Brésil en 2020. Et surtout, selon nos informations, le repreneur de Takata qui fabrique les airbags pour Citroën en Allemagne, a connaissance d'un accident sur une C3 en Guadeloupe dès 2018. Mais Stéphane Cesareo, le directeur de la communication de Citroën, assure pourtant que ce ne sont pas ces accidents qui ont poussé à faire les rappels.
La décision de lancer la campagne s'est faite avant même d'avoir connaissance d'un incident, même si, a posteriori, nous avons été contactés sur un incident qui avait lieu avant que nous lancions la campagne.
Donc Stellantis dit « Avant nos rappels de véhicules en 2020, on ne se sentait pas vraiment concerné ». Bon, cela dit, ce que vous avez découvert, Anne-Laure, c'est qu'en interne, il y a quand même eu des alertes.
Oui, selon des mails, des rapports d'audit, des notes de Stellantis, ses propres experts sécurité alertaient dès 2016 sur les problèmes des airbags Takata que le groupe subissait et s'inquiétaient des conséquences très graves que cela pourrait avoir sur ses rappels de véhicules. Des alertes réitérées en 2019, ces documents, nous les avons montrés à l'avocat d'une des familles de victimes, Christophe Legvac, et voilà comment il a réagi.
Le pari qu'ils ont fait, c'est un pari économique, voire financier, qui consiste à dire, si je rappelle 250 000 véhicules, ou même 500 000 pour toute la France, ça va me coûter X millions, alors que si jamais il y a quelques blessés, voire quelques morts, l'impact économique sera beaucoup plus mesuré, puisque les tribunaux français sont peu favorables à l'indemnisation des victimes. Donc c'est peut-être une accusation grave que je porte là, mais je l'assume, et j'espère que les procédures que nous avons lancées vont permettre de mettre la main sur d'autres documents que les vôtres pour vérifier qui a pris la décision de ne rien faire pendant 10 ans.
Et le constructeur, qu'est-ce qu'il répond ?
Eh bien, nous avons demandé à Stéphane Cesareo, le directeur de la communication de Citroën, pourquoi ces alertes dès 2016 n'ont pas tout de suite été entendues. Écoutez sa réponse.
Alors, elles ont été entendues puisque les campagnes ont été lancées. Mais il y a un contexte qu'il faut intégrer, c'est un contexte industriel. Du jour au lendemain, vous ne remplacez pas les airbags Takata par des airbags fabriquant X ou Y. Ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas arrêter une usine et mettre 3000 personnes, enfin plus de 3000 personnes, 10 000 personnes au chômage pendant un an pour remplacer une pièce.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Alors on a vu que malgré de nombreuses alertes, les constructeurs ont mis beaucoup de temps avant d'admettre qu'ils étaient concernés. Et ce qui ne va pas faciliter les choses, Anne-Laure Barral, c'est que parfois les victimes elles-mêmes ne comprennent pas tout de suite ce qui leur est arrivé.
Effectivement, c'est le cas de la jeune femme que je suis allée rencontrer à La Réunion, Elisa, qui en décembre 2019 est victime d'un accident alors qu'elle percute le véhicule qui la précède.
Il y avait un ralentisseur devant lui, ralentisseur que moi, je n'avais pas vu. Donc je suis rentrée à l'arrière de son véhicule. C'était pas quelque chose de sérieux en fait, c'était que carrosserie. À ce moment-là, j'ai entendu en fait une explosion. J'ai vraiment senti que ma mâchoire elle est partie avec. J'ai compris direct, donc j'ai pas osé toucher tout ça. Je suis sortie de la voiture, il y avait un petit muret rouge, je m'en souviens. Je me suis allongée dessus, sur l'oreille gauche, et j'ai laissé ma joue droite en évidence pour rester consciente le plus longtemps possible.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite là ?
Eh bien, comme des témoins ont aussi entendu une explosion et qu'il y a un trou dans le pare-brise, les secours pensent à une blessure par balle et le procureur ouvre même une enquête pour tentative de meurtre. Mais quelques mois plus tard, l'affaire est classée sans suite, comme l'explique l'avocate d'Elisa, Caroline Bobtcheff.
On va assez vite comprendre qu'il n'y a pas eu d'arme à feu, que d'ailleurs on n'en a pas retrouvé. En revanche, il va y avoir une expertise qui va être ordonnée par le parquet à l'époque. Et cette expertise va avoir lieu sur le véhicule. Tout le monde a dit que ce n'était pas finalement un tir d'arme à feu, mais bien l'airbag qui l'avait blessé. Et c'est absolument conforme avec les conclusions du premier expert qui a été désigné par le parquet au moment de l'enquête pénale.
Donc là, on a un rapport d'expert qui fait le lien entre l'accident et l'airbag. Et le procureur, à ce moment-là, il ne poursuit pas le constructeur ?
Non, et il faudra attendre mai 2021 pour que l'avocate d'Elisa ait accès au dossier et attaque cette fois au civil pour tenter de faire indemniser sa cliente par Citroën. Aujourd'hui, le constructeur a reconnu être mis en cause dans une vingtaine de dossiers.
Et ce que vous avez aussi découvert, Anne-Laure, c'est que ce n'est pas le premier cas d'accident suspect dans l'île de La Réunion.
Effectivement, Jean-Marie Berthezen est médecin légiste au CHU de Saint-Denis, il se souvient parfaitement d'un accident mortel à faible vitesse en 2016 où l'airbag s'était déclenché.
On a fait un examen de corps sur lequel on a constaté une plaie sous le menton, assez large, 3-4 cm. Ça nous a surpris, donc on a réalisé un scanner et le scanner a révélé la présence d'un corps étranger en intracérébral, 2-3 cm cylindrique. On s'est posé la question, savoir qu'est-ce que c'était. En fait, on est à peu près sûr que c'est le percuteur de l'airbag, parce que depuis, il y a eu des publications réalisées par les Américains, par d'autres équipes.
Alors, on ignore la marque du véhicule qui était concerné par cet accident, mais là encore, l'enquête s'arrêtera là, et il faudra attendre 4 ans avant qu'il y ait des rappels.
Alors on va s'arrêter là quelques instants, mais surtout restez avec nous. Dans un instant, on va vous raconter comment des familles de victimes ont reçu des lettres d'avertissement concernant ces fameux airbags, mais après la mort de leurs proches.
Before you
Chihiro, le dernier titre de l'américaine Billie Eilish, extrait de son troisième album Hit Me Hard and Soft, une chanson dont l'ambiance est directement inspirée du voyage de Chihiro, du génie japonais de l'animation Hayao Miyazaki.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête sur ces airbags qui tuent avec vous, Anne-Laure Barral. On a vu que les premiers accidents d'airbags sont longtemps passés sous les radars, mais même une fois les premiers rappels de véhicules lancés par Stellantis en 2020, tout ça se fait un peu à bas bruit.
Oui, c'est parce qu'ils remarquent une annonce sur le site européen des rappels de produits défectueux en 2021 que Johan Leblanc, journaliste à l'Argus Automobile à l'époque, contacte le service de presse de Citroën pour tâcher d'avoir des informations sur le rappel d'environ 20 000 voitures lancées alors en Outre-mer.
Les communiqués de presse pour les rappels, on n'en a quasiment jamais. Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel les constructeurs aiment trop communiquer. Ils préfèrent qu'on parle d'eux pour dire du bien de leurs produits, forcément. Un rappel, même si c'est quelque chose qui est pour le bien de l'automobiliste, ils ont toujours peur que ça fasse passer le message « mon véhicule est dangereux » ou « mon véhicule n'est pas fiable ».
En l'occurrence, sur les airbags Takata, oui, on peut le dire, le véhicule est dangereux.
On peut dire que le véhicule est dangereux.
Ils n'ont pas forcément envie de le dire.
Ils n'ont pas forcément envie de le dire.
Oui, ce qui inquiète le constructeur, c'est la mauvaise publicité.
Oui, ils doivent l'annoncer aux autorités, mais ils préfèrent la discrétion et écrire aux propriétaires concernés à leur rythme des courriers recommandés. Et s'ils n'ont pas de réponse, des lettres simples ensuite. Écoutez ce que nous a expliqué un ancien haut cadre de chez Stellantis sur la façon dont les constructeurs gèrent leurs rappels. Pour ne pas l'identifier, il a préféré que nous fassions lire ses propos.
La première chose que fait un département après-vente ou qualité avant de lancer un rappel, c'est d'évaluer l'urgence, l'importance, la probabilité, le mode de réparation, la quantité de pièces et de dire la date à laquelle on peut l'annoncer pour ne pas créer une ruée sur les concessions et une situation ingérable. Alors on peut dire « vous devez tout arrêter ». Très bien, mais si on a des millions de personnes qui sont sans solution de déplacement pendant des mois, on aura gagné quoi? On aura peut-être évité 30 accidents, d'accord. Vous faites quel choix à la fin? C'est la peste ou le choléra?
Et cette façon de temporiser, elle aboutit parfois à des situations assez choquantes.
Oui, avec des familles de victimes qui reçoivent des courriers d'avertissement après la mort de leurs proches. Et c'est le cas de plusieurs personnes que j'ai rencontrées, comme Philippe Mathurin, qui a perdu sa fille Carole en décembre 2020 à Cayenne, en Guyane.
En arrivant sur un rond-point sur la route nationale 4, elle a heurté l'arrière du véhicule qui la précédait. Le propriétaire du véhicule qui la précédait a été la voir et l'a trouvée morte au volant. Un airbag complètement percé de partout. Le visage de Carole complètement détruit. Ils ont trouvé une pièce métallique dans le tronc rachidien, ce qui a conduit à la mort immédiate, quoi.
Le tronc rachidien, autrement dit le cerveau de la victime, c'est évidemment terrible. Et ce courrier qu'il reçoit après la mort de sa fille, il dit quoi exactement ?
Eh bien qu'une possible défaillance du dispositif de gonflage d'airbag pourrait occasionner un déploiement incontrôlé. Dans ce cas, il est possible que les débris métalliques se détachent et blessent les passagers. Un courrier qui arrive au siège de l'association qu'a créée sa fille, alors qu'elle est morte depuis 8 mois. Et aujourd'hui encore, Philippe Mathurin a du mal à y croire.
L'association reçoit ce courrier de Citroën, les invitant en tant que propriétaire à porter la voiture dans une concession afin de changer l'airbag. Les gens de l'association me transmettent aussitôt le courrier. Et quand je le lis, il n'y a pas de mots. Oui, c'est lamentable, quoi. Tu trouves pas d'autres mots.
Et chez Citroën, qu'est-ce qu'on répond alors ?
Qu'il n'était pas forcément au courant que les propriétaires avaient eu des accidents. Et qu'en Outre-mer, c'est un peu particulier. C'est à leurs importateurs, les entreprises spécialisées dans la distribution de marchandises, d'envoyer d'abord les courriers d'avertissement aux automobilistes.
Oui, sauf que ces courriers, ils ne sont pas toujours envoyés à temps, on l'a vu, et même parfois, ils ne sont pas envoyés du tout.
Oui, c'est ce qui s'est passé pour Emmanuelle, une jeune mère de famille de 39 ans, morte au volant de sa voiture en septembre 2021 à La Réunion. Je me suis rendue sur les lieux de l'accident avec sa sœur Christelle Sauger. Là aussi, les témoins et les secours étaient surpris de voir qu'un banal accrochage pouvait provoquer la mort brutale de la conductrice de la DS3.
Ce que j'ai compris, c'est que la voiture est partie en roue libre, en fait. Ouais. Elle a fini en roue libre. Et que les autres véhicules n'ont pas compris ce qui se passait, parce que vu que le choc était vraiment pas important, personne n'a compris pourquoi la voiture continuait à rouler à si faible allure toute seule. Et voilà, et puis c'est le pompier qui est rentré dans la voiture qui a découvert qu'elle était décédée, tuée par son airbag.
Et donc, dans ce cas précis, aucun courrier d'avertissement n'a été envoyé, alors que le concessionnaire était au courant que le véhicule devait être rappelé pour changer son airbag.
Oui, et il a même le numéro de téléphone de la victime, puisqu'elle était la première propriétaire du véhicule qu'elle a acheté en 2011. Alors certes, elle a déménagé depuis, mais selon son avocate, maître Céline Mazodier-Pichon de Bury, on ne peut pas dire qu'elle était négligente sur le plan administratif.
Tout l'entretien de la voiture depuis son achat jusqu'à son accident, le carnet d'entretien de la voiture, mais aussi toutes les factures de réparation, tout était classé. Non seulement elle était à jour de toutes ses visites obligatoires, mais elle faisait des révisions régulières, elle faisait ses vidanges de manière régulière sur son véhicule. Comme à chaque fois qu'elle a déménagé, elle faisait ses changements de carte grise dans les jours qui suivaient son déménagement, de façon à être toujours à jour de tout.
Et le concessionnaire importateur, qu'est-ce qu'il en dit ?
Alors, il n'a pas voulu répondre à mes questions, mais en tout cas, ce qui paraît clair, c'est que les importateurs en Outre-mer prennent aussi leur temps pour envoyer les courriers à tous les propriétaires afin de ne pas saturer leurs ateliers de réparation. Écoutez ce que nous a confié un ancien responsable de zone Outre-mer de chez Stellantis, dont la voix a été transformée.
L'importateur est rémunéré par le constructeur pour faire cette campagne de rappel. Ça ne lui coûte rien, mais ça ne lui rapporte pas grand-chose non plus. Quand on sature ses ateliers avec une campagne de rappel, on gagne moins que si c'était des clients qui venaient faire leur entretien. Si on envoie tout à tout le monde d'un coup et que ça marche, il y a une surcharge des ateliers qui est insupportable.
Donc ces rappels en Outre-mer, ils se font de manière échelonnée.
Oui, et comme les concessionnaires ne peuvent pas changer tous les airbags d'un coup, eux aussi vont échelonner leur courrier de rappel. Et donc, tous les propriétaires ne seront pas contactés en même temps. En plus, c'est vrai que tous les automobilistes ne vont pas forcément chercher leur courrier recommandé. D'ailleurs, près de 100 000 d'entre eux ne se seraient pas manifestés en Outre-mer pour changer leur airbag, malgré les courriers.
Oui, ça fait beaucoup de temps perdu et donc des victimes. Et est-ce qu'on sait justement combien d'accidents il y a aujourd'hui en France ?
Alors, il n'y a aucun bilan officiel, mais nous en avons recensé une trentaine qui ont fait au moins 15 morts, dont 14 en Outre-mer. Pour les blessés, c'est encore plus difficile de donner un chiffre. Certaines personnes se sont faites indemniser par les assurances ou alors ont conclu des accords confidentiels. Et pour Maître Charles-Henri Copé, qui défend de nombreuses victimes, il est temps de regrouper tous ces dossiers auprès d'un pôle unique d'enquête.
Il faut que l'enquête elle soit unique pour éviter effectivement les déperditions, pour éviter les contradictions. Si on peut regrouper tout ensemble les éléments techniques, les éléments d'investigation, on aura une réponse forte à donner. Des gens sont morts et on doit leur offrir, des gens sont blessés, on doit leur offrir un traitement juste.
Et puis il y a aussi quelque chose de très surprenant sur le fait qu'il n'y ait aucun accident de signaler en Martinique. Mais pour Tania Foucan, médecin légiste au CHU de Guadeloupe, il y a peut-être une explication.
Pendant longtemps, il n'y avait pas d'équipe de médecine légale dédiée en Martinique. C'était les médecins légistes de Guadeloupe qui venaient en Martinique pour faire les autopsies. Comme c'était forcément un petit peu compliqué de venir assez souvent, c'était plutôt les homicides qui étaient faits en autopsie ou les cas très particuliers. Donc les accidents de la voie publique, il n'y avait pas forcément d'autopsie. Peut-être qu'on est passé à côté de certains cas. C'est une question qu'on pourrait se poser, effectivement.
Ah oui, il y a donc peut-être encore plus de cas qu'on ne le pense. Et puis, il y a aussi une autre question qui se pose, Anne-Laure. C'est le fait de savoir si ces airbags ne peuvent pas se déclencher de manière intempestive.
Oui, et quand on pose cette question au directeur de la communication de Citroën, comme à d'autres constructeurs, la réponse est catégorique.
L'airbag ne se déclenche pas tout seul. C'est pas possible. C'est consécutif à un accident.
Sauf que plusieurs témoins d'accidents évoquent une perte de contrôle du véhicule avant le choc. Il y a même deux enquêtes sur ce type d'accident en Guadeloupe. Et par ailleurs, l'autorité américaine de la sécurité routière nous a confirmé investiguer sur des cas suspects de ce qu'elle appelle des ruptures spontanées d'airbag.
Alors on va bientôt conclure, mais ce qui ressort de votre enquête, Anne-Laure, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'accidents en Outre-mer avant que des mesures ne soient vraiment prises.
Oui, c'est en tout cas ce que pensent les proches de victimes comme Rosemey Saugé, la mère de la jeune femme tuée à La Réunion en 2021 à bord de sa DS3. Elle ne comprend pas que Stellantis n'ait pas lancé un rappel urgent, ce qu'on appelle un stop drive, comme il l'a fait en métropole dès 2020.
Quand il commence à comprendre qu'il y a un problème, pourquoi ne considère-t-il pas nous, les DOM, comme des Français à part entière ? Pourquoi aujourd'hui encore, dans le sud de la France, on fait des stop-drive ? Et pourquoi il ne donne pas les moyens aux DOM-TOM de traiter ce problème-là ? C'est scandaleux.
Et il n'y a pas une autorité qui peut intervenir auprès du constructeur pour imposer un rappel urgent ?
Alors, depuis 2021, il existe enfin un service de surveillance du marché automobile qui peut un peu demander des comptes aux constructeurs. D'ailleurs, sa responsable, Catherine Biette, a convoqué Stellantis sur le sujet face à la multiplication des accidents en Europe du Sud, comme en Italie, en Espagne et en Grèce.
Nous avons, dès l'été 2023, à la suite de l'accident en Grèce, demandé à Stellantis de prendre des mesures rapidement en métropole.
Et pourquoi pas en Outre-mer avant ?
Alors, en Outre-mer, la question était un peu différente puisque Stellantis a lancé des rappels de véhicules en 2020 et 3 ans après, Stellantis a décidé de lancer un stop drive sans qu'on ait besoin de le lui demander sur les C3 et DS3.
Et c'est parce que vous avez contacté ce service de surveillance du marché automobile alors qu'une initiative a finalement été prise.
En effet, le service a lancé une campagne internet dédiée aux airbags Takata pour que les propriétaires de toutes les marques concernées puissent vérifier si leur numéro de châssis est ou n'est pas concerné par ce rappel.
Sauf que les choses ne sont pas si simples.
Oui, et on le voit avec l'accident qui a eu lieu le 8 décembre dernier. Émilie, 42 ans, a été tuée par l'airbag de sa Polo en Guadeloupe. Pourtant, son mari, Valérie, travaille dans l'automobile. Il est bien conscient depuis un an des dangers de ces airbags. Il avait même vérifié dans la base informatique de Volkswagen que le véhicule de sa femme n'était pas dans la liste.
Je suis un petit peu perdu parce que normalement, cette base constructeur vous donne s'il y a une problématique existante ou pas. Pourquoi quand nous, on s'interroge et qu'on nous dit tout va bien, il faut un accident pour qu'on nous dise derrière que non, ça va pas.
Bon, mais alors, qui peut me garantir finalement qu'il n'y a pas un airbag dangereux de Takata dans ma voiture alors ?
Bah justement, c'est ce qu'on a demandé à la responsable du service de surveillance du marché automobile, Catherine Biette.
Chaque constructeur est responsable des listes de véhicules qui se rapportent au rappel qu'il déclare. Je vous mentirais si je vous disais que j'étais complètement sûre que tous les véhicules ont fait l'objet d'un rappel. Mais je peux penser que la très grande majorité des véhicules ont fait l'objet d'un rappel.
Donc en fait, la seule solution, Benoît, qui s'offre aux automobilistes soucieux de savoir s'ils ont un Takata dans leur volant ou pas, c'est de payer eux-mêmes le démontage et le changement d'airbag chez leur garagiste.
Merci Anne-Laure Barral pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France avec une chronologie détaillée mise en image par Raphaël Canezan et une vidéo exceptionnelle réalisée et animée par Nicolas De Witt de la cellule Investigation. Une vidéo pour tout comprendre sur ce scandale. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Théo de Lobadère. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.